Le choix fait, il faut le mettre à l'épreuve de l'application. Et bien entendu, l'appareil enregistreur placé en France s'efforce de discerner progressivement les résultats. Mais l'expression n'est qu'un commencement. L'action est un outil plus puissant de modelage des âmes. Elle a une double propriété à l'égard des mobiles. D'abord, un mobile n'est vraiment réel dans l'âme que lorsqu'il a provoqué une action exécutée par le corps. Il ne suffit pas d'encourager telle ou telle mobile présence ou embryonnaire au cœur des Français, en comptant sur ceux-ci pour réaliser eux-mêmes leurs propres mobiles en action. Il faut de plus, de Londres, dans la plus grande mesure possible, le plus continuellement possible, avec le plus de détails possible, et par tous les moyens appropriés, radio ou autres, indiquer des actions. Un soldat disait un jour, racontant son propre comportement pendant une campagne, « J'ai obéi à tous les ordres. Mais je sentais qu'il aurait été impossible pour moi, infiniment au-dessus de mon courage, d'aller au-devant d'un danger volontairement et sans ordre. » Cette observation enferme une vérité très profonde. Un ordre est un stimulant d'une efficacité incroyable. Il enferme en lui-même, dans certaines circonstances, l'énergie indispensable à l'action qu'il indique. Soit dit en passant, étudier en quoi consistent ces circonstances, qu'est-ce qui les définit, quelles en sont les variétés, en faire la liste complète, ce serait acquérir une clé pour la solution des problèmes les plus essentiels et les plus urgents de la guerre et de la politique. La responsabilité clairement reconnue, imposant des obligations précises et tout à fait strictes, pousse vers le danger de la même manière qu'un ordre. Elle ne se présente qu'une fois engagée dans l'action, et par l'effet de telles ou telles circonstances particulières de l'action. L'aptitude à la reconnaître est d'autant plus grande que l'intelligence est plus claire. Elle dépend, plus encore, de la probité intellectuelle, vertu infiniment précieuse qui empêche de se mentir pour éviter l'inconfort. Ceux qui peuvent s'exposer au danger sans la pression d'un ordre ou d'une responsabilité précise sont de trois espèces. Il y a ceux qui ont beaucoup de courage naturel, un tempérament dans une large mesure étrangère à la peur, une imagination peu tournée au cauchemar. Ceux-là vont souvent au danger avec légèreté, dans un esprit aventureux, sans dépenser beaucoup d'attention pour choisir le danger. Il y a ceux pour qui le courage est difficile, mais qui en puisent l'énergie dans des mobiles impurs. Le désir d'une décoration, la vengeance, la haine sont des exemples de ce genre de mobiles. Il y en a un très grand nombre, très différents selon les caractères et les circonstances. Il y a ceux qui obéissent à un ordre direct et particulier venu de Dieu. Ce dernier cas est moins rare qu'on ne croit, car là où il existe, il est souvent même secret pour l'intéressé lui-même. Car ceux dont c'est le cas sont quelquefois au nombre de ceux qui croient qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourtant, quoique moins rare qu'on croit, il n'est malheureusement pas fréquent. Aux deux autres catégories, il correspond à un courage qui, Bien que souvent très spectaculaire et honorée du nom d'héroïsme, est très inférieure en qualité humaine à celui du soldat qui obéit aux ordres de ses chefs. Le mouvement français de Londres a précisément le degré qui convient de caractère officiel pour que les directives envoyées par lui contiennent le stimulant attaché à des ordres sans pourtant ternir l'espèce d'ivresse lucide et pure qui accompagne le libre consentement au sacrifice. Il en résulte pour lui des possibilités et des responsabilités immenses. Plus il y aura en France d'actions accomplies par ses ordres, de gens agissant sous ses ordres, plus la France aura de chances de retrouver une âme qui lui permette une rentrée triomphale dans la guerre. Triomphale, non pas seulement militairement, mais aussi spirituellement. Et une reconstruction de la patrie dans la paix. En plus de la quantité, le problème du choix des actions est capital. Il est capital à plusieurs égards, dont certains sont d'un tel niveau d'élévation et d'importance qu'il faut regarder comme désastreuse la compartimentation qui met ce domaine entièrement aux mains de techniciens de la conspiration. D'une manière tout à fait générale, en toute espèce de domaine, il est inévitable que le mal domine partout où la technique se trouve, soit entièrement, soit presque entièrement souveraine. Les techniciens tendent toujours à se rendre souverains parce qu'ils sentent qu'ils connaissent leur affaire. Et c'est tout à fait légitime de leur part. La responsabilité du mal, qui, lorsqu'ils y parviennent, en est l'effet inévitable, incombe exclusivement à ceux qui les ont laissés faire. Quand on les laisse faire, c'est toujours uniquement, faute d'avoir toujours présente dans l'esprit, la conception claire et tout à fait précise des fins particulières auxquelles telle, telle et telle technique doit être subordonnée. La direction imprimée de Londres à l'action menée en France doit répondre à plusieurs fins. La plus évidente est la fin militaire immédiate, en ce qui concerne les renseignements et les sabotages. À cet égard, les Français de Londres ne peuvent être que des intermédiaires entre les besoins de l'Angleterre et la bonne volonté des Français de France. L'importance extrême de ces choses est évidente, si on se rend compte qu'il est de plus en plus clair que les communications, bien plus que les batailles, décideront de la guerre. Le couple locomotive-sabotage est symétrique du couple bateau-sous-marin. La destruction des locomotives vaut celle des sous-marins. La relation de ces deux espèces de destruction est celle de l'offensive à la défensive. La désorganisation de la production n'est pas moins essentielle. Le volume, la quantité de notre influence sur l'action menée en France dépend principalement des moyens matériels mis à notre disposition par les Anglais. Notre influence sur la France, celle que nous avons, et plus encore celle que nous pouvons acquérir, peut être, pour les Anglais, d'un usage très précieux. Il y a donc besoin mutuel. Mais le nôtre est beaucoup plus grand, du moins dans l'immédiat, qui trop souvent est seul considéré. Dans cette situation, s'il n'y a pas entre eux et nous des relations non seulement bonnes, mais chaleureuses, vraiment amicales et en quelque sorte intimes, C'est quelque chose d'intolérable et qui doit cesser. Partout où des relations humaines ne sont pas ce qu'elles doivent être, il y a généralement faute des deux côtés. Mais il est toujours bien plus utile de songer à ses propres fautes pour y mettre fin qu'à celles de l'autre. De plus, le besoin est beaucoup plus grand de notre côté, au moins le besoin immédiat. Puis, nous sommes des émigrés accueillis par eux. Et il existe une dette de gratitude. Enfin, il est notoire que les Anglais n'ont pas l'aptitude à sortir d'eux-mêmes et à se mettre à la place d'autrui. Leurs meilleures qualités, leurs fonctions propres sur cette planète, sont presque incompatibles avec elles. Cette aptitude est en fait, par malheur, presque aussi rare chez nous. Mais elle appartient, par la nature des choses, à ce qu'on appelle la vocation de la France. Pour tous ces motifs, c'est à nous à faire effort pour porter les relations au degré de chaleur convenable. Il faut que, de notre part, un sincère désir de compréhension, pur, bien entendu, de toute nuance de servilité, perce à travers leurs réserves jusqu'à la réelle capacité d'amitié qu'elles dissimulent. Les sentiments personnels jouent dans les grands événements du monde un rôle qu'on ne discerne jamais dans toute son étendue. Le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas amitié entre deux hommes, entre deux milieux humains, peut, dans certains cas, être décisif pour la destinée du genre humain. C'est tout à fait compréhensible. Une vérité n'apparaît jamais que dans l'esprit d'un être humain particulier. Comment la communiquera-t-il ? S'il essaie de l'exposer, il ne sera pas écouté, car les autres, ne connaissant pas cette vérité, ne la reconnaîtront pas pour telle. Ils ne sauront pas que ce qu'il est en train de dire est vrai. Ils n'y porteront pas une attention suffisante pour s'en apercevoir, car ils n'auront aucun motif d'accomplir cet effort d'attention. Mais l'amitié, l'admiration, la sympathie ou tout autre sentiment bienveillant les disposerait naturellement à un certain degré d'attention. Un homme qui a quelque chose de nouveau à dire, car pour les lieux communs, nulle attention n'est nécessaire, ne peut être d'abord écouté que de ceux qui l'aiment. Ainsi, la circulation des vérités parmi les hommes dépend entièrement de l'état des sentiments. Et il en est ainsi pour toutes les espèces de vérités. Chez des exilés qui n'oublient pas leur pays, et ceux qui l'oublient sont perdus, le cœur est si irrésistiblement tourné vers la patrie malheureuse qu'il y a peu de ressources affectives pour l'amitié à l'égard du pays qu'on habite. Cette amitié ne peut pas vraiment germer et pousser dans leur cœur s'ils ne se font pas une sorte de violence. Mais cette violence est une obligation. Les Français qui sont à Londres n'ont pas de plus impérieuse obligation envers le peuple français qui vit les yeux tournés vers eux que de faire en sorte qu'il y ait entre eux-mêmes et l'élite des Anglais une amitié réelle, vivante, chaleureuse, intime, efficace. En dehors de l'utilité stratégique, d'autres considérations encore doivent avoir part au choix des actions. Elles ont bien plus d'importance encore, mais viennent en second lieu, parce que l'utilité stratégique est une condition pour que l'action soit réelle. Là où elle est absente, il y a agitation, non action. Et la vertu indirecte de l'action, qui en fait le prix principal, est absente du même coup. Cette vertu indirecte, encore une fois, est double. L'action confère la plénitude de la réalité aux mobiles qui la produisent. L'expression de ces mobiles, entendue du dehors, ne leur confère encore qu'une demi-réalité. L'action a une toute autre vertu. Beaucoup de sentiments peuvent coexister dans le cœur. Le choix de ce qu'il faut, après les avoir discernés dans le cœur des Français, porter au degré d'existence que confère l'expression officielle, ce choix est déjà limité par des nécessités matérielles. Si, par exemple, on parle chaque soir un quart d'heure aux Français, si l'on est obligé de se répéter souvent parce que le brouillage empêche d'être sûr qu'on a été entendu et que, de toute manière, la répétition est une nécessité pédagogique, on ne peut dire qu'à un nombre de choses limité. Dès qu'on passe au domaine de l'action, les limites sont encore plus étroites. Il faut opérer un nouveau choix d'après les critères déjà esquissés. La manière dont un mobile se transforme en acte est une chose à étudier. Un même acte peut être produit par tel mobile ou tel autre, ou encore tel autre, ou par un mélange. Au contraire, tel autre mobile peut n'être pas susceptible de le produire. Pour amener les gens non seulement à accomplir telle action, mais encore à l'accomplir par l'impulsion de tel mobile, le meilleur procédé, peut-être le seul, semble consister dans l'association établie au moyen de la parole. C'est-à-dire que, toutes les fois qu'une action est conseillée par radio, ce conseil doit être accompagné de l'expression d'un ou de quelques mobiles. Toutes les fois que le conseil est répété, le mobile doit être de nouveau exprimé. Il est vrai que les instructions précises sont communiquées par une voix autre que la radio. Mais elles devraient toutes être doublées par des encouragements transmis par radio, portant sur le même objet, désignés seulement autant que le permet la prudence, avec les précisions en moins et l'expression des mobiles en plus. L'action a une seconde vertu dans le domaine des mobiles. Elle ne confère pas seulement la réalité à des mobiles qui, auparavant, existaient dans un état semi-fantomatique. Elle fait aussi surgir dans l'âme des mobiles et des sentiments qui, auparavant, n'existaient pas du tout. Cela se produit toutes les fois que soit l'entraînement, soit la contrainte des circonstances fait pousser l'action au-delà de la somme d'énergie enfermée dans le mobile qui a produit l'action. Ce mécanisme, dont la connaissance est essentielle aussi bien pour la conduite de sa propre vie que pour l'action sur les hommes, est également susceptible de susciter du mal ou du bien. Par exemple, il arrive souvent qu'un malade chronique, dans une famille, soigné tendrement par l'effet d'une sincère affection, finisse par faire naître chez les siens une hostilité sourde, inavouée, parce qu'ils ont été obligés de lui donner plus d'énergie que leur affection n'en contenait. Dans le peuple, où de telles obligations ajoutées aux fatigues habituelles sont tellement lourdes, il en résulte parfois une apparence d'insensibilité ou même de cruauté, incompréhensible du dehors. C'est pour cela que, comme le remarquait un jour charitablement Gringoire, les cas d'enfants martyrs se rencontrent dans le peuple plus qu'ailleurs. Les ressources de ce mécanisme pour produire le bien sont illustrées par une merveilleuse histoire bouddhiste. Une tradition bouddhiste dit que le Bouddha a fait vœu de faire monter au ciel à ses côtés quiconque dirait son nom avec le désir d'être sauvé par lui. Sur cette tradition repose la pratique nommée la récitation du nom du Seigneur. Elle consiste à répéter un certain nombre de fois quelques syllabes sanscrites, chinoises ou japonaises qui veulent dire « Gloire au Seigneur de lumière ». Un jeune moine bouddhiste était inquiet pour le salut éternel de son père, vieil avare qui ne pensait qu'à l'argent. Le prieur du couvent se fit amener le vieux et lui promit un sou chaque fois qu'il pratiquerait la récitation du nom du Seigneur. S'il venait le soir dire combien de sous on lui devait, on les lui paierait. Le vieux, ravi, consacra à cette pratique tous ses moments disponibles. Il venait se faire payer au couvent chaque soir. Soudain, on ne le vit plus. Après une semaine, le prieur envoya le jeune moine chercher des nouvelles de son père. On apprit ainsi que le vieux était maintenant absorbé par la récitation du nom du Seigneur, au point qu'il ne pouvait plus compter combien de fois il la pratiquait. C'est ce qui l'empêchait de venir chercher son argent. Le prieur dit au jeune moine de ne plus rien faire et d'attendre. Quelque temps après, le vieux arriva au couvent avec des yeux rayonnants et raconta qu'il avait eu une illumination. C'est à des phénomènes de ce genre que fait allusion le précepte du Christ. Thésaurisez pour vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Cela signifie qu'il y a des actions qui ont la vertu de transporter de la terre dans le ciel une partie de l'amour qui se trouve dans le cœur d'un homme. Un avare n'est pas un avare quand il commence à amasser. Il est stimulé d'abord, sans doute, par la pensée des jouissances qu'on se procure avec l'argent. Mais les efforts et les privations qu'il s'impose chaque jour produisent un entraînement. Quand le sacrifice dépasse de loin l'impulsion initiale, le trésor, objet du sacrifice, devient pour lui une fin en soi, et il y subordonne sa propre personne. La manie du collectionneur repose sur un mécanisme analogue. On pourrait citer quantité d'autres exemples. Ainsi, quand les sacrifices faits à un objet dépassent de loin l'impulsion qui les a causés, il en résulte, à l'égard de cet objet, ou un mouvement de répulsion, ou un attachement d'une espèce nouvelle et plus intense, étrangère à l'impulsion première. Dans le second cas, il y a bien ou mal selon la nature de l'objet. Si dans le cas du malade, il y a souvent répulsion, c'est que ce genre d'effort est privé d'avenir. Rien d'extérieur n'y répond à l'accumulation intérieure de la fatigue. L'avare, lui, voit croître son trésor. Il est d'ailleurs aussi des situations, des combinaisons de caractères telles qu'un malade dans une famille inspire au contraire un attachement fanatique. En étudiant suffisamment tout cela, on pourrait sans doute discerner les lois. Mais même une connaissance sommaire de ces phénomènes peut nous fournir des règles pratiques. Pour éviter l'effet de répulsion, il faut prévoir l'épuisement possible des mobiles. Il faut, de période en période, donner l'autorité de l'expression officielle à des mobiles nouveaux pour les mêmes actions. Mobiles répondant à ce qui aura pu germer spontanément au secret des cœurs. Il faut surtout veiller à ce que le mécanisme de transfert qui attache l'avare au trésor joue de manière à produire du bien et non du mal. Éviter, ou en tout cas réduire au strict minimum, tout le mal qui pourrait être ainsi suscité. Il est facile de comprendre comment. Le mécanisme en question consiste en ceci, qu'une action, après avoir été menée avec effort pour des motifs extérieurs à elle-même, devient par elle-même objet d'attachement. Il en résulte du bien ou du mal, selon que l'action est par elle-même bonne ou mauvaise. Si on tue des soldats allemands pour servir la France et qu'au bout d'un certain temps, assassiner des êtres humains devienne un goût, il est clair que c'est un mal. Si l'on aide des ouvriers qui fuient l'envoi en Allemagne pour servir la France et qu'au bout d'un certain temps, le secours aux malheureux devienne un goût, il est clair que c'est un bien. Tous les cas ne sont pas aussi clairs, mais tous peuvent être examinés de cette manière. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut toujours choisir les modes d'action qui contiennent en eux-mêmes un entraînement vers le bien. Il le faut même, très souvent, quand toutes choses ne sont pas égales d'ailleurs. Il le faut non seulement pour le bien, ce qui suffirait, mais aussi par surcroît pour l'utilité. Le mal est beaucoup plus facilement que le bien un mobile agissant. Mais une fois que du bien pur est devenu un mobile agissant dans une âme, il y est la source d'une impulsion inépuisable et invariable, ce qui n'est jamais le cas du mal. On peut très bien devenir un agent double par patriotisme, pour mieux servir son pays en trompant l'ennemi. Mais si les efforts qu'on accomplit dans cette activité dépassent l'énergie du mobile patriotique, et si par suite on prend goût à l'activité elle-même, il vient presque inévitablement un moment où l'on ne sait plus soi-même qui l'on sert et qui l'on trompe, où on est prêt à servir ou tromper n'importe qui. Au contraire, si, par patriotisme, on est poussé à des actions qui font germer et croître l'amour d'un bien supérieur à la patrie, l'âme acquiert cette trempe qui fait les martyrs, et la patrie en profite. La foi est plus réaliste que la politique réaliste. Qui n'en a pas la certitude n'a pas la foi. Il faut donc examiner et peser d'extrêmement près, en faisant chaque fois le tour du problème, chacun des modes d'action qui constituent la résistance illégale en France. Une observation attentive sur place, accomplie uniquement de ce point de vue, est indispensable à cet effet. Il n'est pas non plus exclu qu'il puisse y avoir lieu d'inventer des formes d'action nouvelles, en tenant compte à la fois de ces considérations et des buts immédiats. Entre parenthèses. Par exemple, nouer tout de suite une vaste conspiration pour la destruction des documents officiels relatifs au contrôle des individus par l'État, destruction qui peut être opérée par des procédés très variés, incendies, etc. Cela aurait des avantages immédiats et lointains immenses. Fermez la parenthèse. Un degré de réalité supérieur encore à l'action est constitué par l'organisation qui coordonne les actions. Quand une telle organisation n'a pas été fabriquée artificiellement, mais a poussé, comme une plante au milieu des nécessités quotidiennes, et en même temps a été modelée par une vigilance patiente d'après la vue claire d'un bien, c'est là peut-être le degré de réalité le plus haut possible. Il y a des organisations en France, mais il y a aussi, ce qui est d'un intérêt infiniment plus grand encore, des embryons, des germes, des ébauches d'organisations en voie de croissance. Il faut les étudier, les contempler sur place, et user de l'autorité qui réside à Londres comme d'un outil pour les modeler discrètement et patiemment, comme un sculpteur qui devine la forme contenue dans le bloc de marbre pour l'en extraire. Ce modelage doit être guidé à la fois par des considérations immédiates et non immédiates. Tout ce qui a été dit précédemment à propos de la parole et de l'action s'applique encore ici. Une organisation qui cristallise et capte les paroles lancées officiellement, qui en traduise l'inspiration en paroles différentes et bien à elle, qui les réalise en actions coordonnées pour lesquelles elles constituent une garantie d'efficacité toujours croissante, qui soit un milieu vivant, chaleureux, plein d'intimité, de fraternité et de tendresse, voilà la terre végétale où les malheureux Français, déracinés par le désastre, peuvent vivre et trouver le salut pour la guerre et pour la paix. Cela doit se faire maintenant. Après la victoire, dans le déchaînement irrésistible des appétits individuels de bien-être ou de pouvoir, il sera absolument impossible de rien commencer. Cela doit se faire immédiatement. C'est indescriptiblement urgent. Manquer le moment serait encourir une responsabilité presque équivalente, peut-être, à un crime. L'unique source de salut et de grandeur pour la France, c'est de reprendre contact avec son génie au fond de son malheur. Cela doit se faire maintenant. Tout de suite, alors que le malheur est encore écrasant, alors que la France a devant elle, dans l'avenir, la possibilité de rendre réelle la première lueur de conscience de son génie retrouvé, en l'exprimant à travers une action guerrière. Après la victoire, cette possibilité serait passée, et la paix n'en présenterait pas d'équivalente. Car il est infiniment plus difficile d'imaginer, de concevoir une action de paix qu'une action de guerre. Pour passer à travers une action de paix, une inspiration doit avoir déjà un degré élevé de conscience, de lumière, de réalité. Ce ne sera le cas pour la France, au moment de la paix, que si la dernière période de la guerre a produit cet effet. Il faut que la guerre soit l'institutrice qui développe et nourrisse l'inspiration. Pour cela, il faut qu'une inspiration profonde, authentique, une vraie lumière surgisse en pleine guerre. Il faut que la France soit de nouveau pleinement présente à la guerre, participe au prix de son sang à la victoire. Mais cela ne saurait suffire. Cela pourrait se produire dans les ténèbres. Et le vrai profit, alors, serait faible. Il faut, de plus, que l'aliment de son énergie guerrière ne soit pas autre chose que son véritable génie. Retrouver dans les profondeurs du malheur, bien qu'avec un degré de conscience inévitablement faible d'abord, après une pareille nuit. La guerre même peut alors en faire une flamme. La vraie mission du mouvement français de Londres est, en raison même des circonstances politiques et militaires, une mission spirituelle avant d'être une mission politique et militaire. Elle pourrait être définie comme étant la direction de conscience à l'échelle d'un pays.